Vous êtes bien sur Canal Sud, c'est l'heure de l'interview par Chantal.
Et voilà.
Là, on va arrêter
un peu
la musique.
Premier vendredi du mois. Alors, des fois, c'est 6h30, des fois, c'est 7h30. Donc, restez toujours à l'écoute de Canal Sud pour ne jamais rater l'entretien avec l'artiste qui expose. En l'occurrence, c'est Jean-Claude Milo.
Bonjour.
Qui s'est installé pour tout le mois de novembre dans les locaux de la radio Canal Sud. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, premier vendredi du mois, c'est le vernissage. Donc, vous pouvez venir au 40 rue Alfred Duméril, rencontrer en direct Jean-Claude Milo dans une demi-heure, quand on aura fini l'entretien, il sera dans la salle. Et puis pour le vernissage, et bien boire et manger avec nous. Alors, en dehors de cette amicale rencontre, on observe donc sur les murs de la radio Canal Sud des tableaux, des grands formats et de la couleur et de la peinture.
Ouais. C'est de la peinture. Oui, c'est de la peinture.
Voilà, donc là, on est en présence de peinture. Est-ce que c'est toujours un peu une question bateau que je pose? Ça fait longtemps que tu peins ou est-ce que tu n'as fait que peindre ou tu as fait d'autres?
J'ai, comme tout le monde, enfant, je peignais, je dessinais. J'ai appris à dessiner, mais... Au moment où j'ai voulu rentrer dans une création plastique, je m'étais orienté vers des travaux d'installation, travailler à partir de la matière, travailler du ressenti des matières et de faire une mise en scène de cette matière où à la fois on ne sentait pas directement le sel ou la paraffine, où elle était... un petit peu masqué par la présentation que j'en faisais. Et on le redécouvrait petit à petit. Donc au début, on sentait les sensations des matières avant de savoir de quelle matière il s'agissait.
Oui, et quand tu parles de ces matières-là, vous avez entendu, donc tu as parlé de sel et de paraffine, on est dans le blanc, et dans le gris. Oui. Et si je me souviens, tu as déjà exposé, même si je crois qu'à Dalle Sud, et on était plutôt justement dans des tons plus neutres, plus blancs, gris, ou en tout cas plus effacés.
Oui, oui, oui.
Voilà.
C'est la couleur... j'avais essayé et j'ai toujours ce sentiment de peinture et la peinture prenait le dessus. J'avais comme si je développais deux discours en même temps.
Et ma question de départ, c'était, c'est les Beaux-Arts qui t'ont mis la main à la peinture?
Non,
ou...
non, j'ai...
Tu as fait les Beaux-Arts?
J'ai pas fait les Beaux-Arts.
Non, voilà.
J'ai fait une école d'art des jardins parce qu'il fallait que mes parents... n'avait pas envie que je m'oriente en tant qu'artiste en disant que c'était pas un métier et que si j'avais envie de faire de l'art, l'art des jardins, c'était bien.
Ça mène à tout.
Je suis rentré dernier, je suis sorti dernier, mais j'ai quand même appris à dessiner. Puis je me suis orienté vers l'INRA, où j'ai pu travailler le dessin, travailler la photo, travailler sur les ordinateurs.
On ne s'y attendrait pas, ce n'est pas forcément le lieu pour travailler le dessin à l'INRA, non?
Mais il y a besoin de croquis, on ne peut pas toujours prendre des photos, ou des fois les photos ne mettent pas en évidence et un dessin permet de relever ce qui est à voir dans la photo. Donc il y a un travail de saisie, de reproduction pour des choses qui sont... pas directement lisé par d'autres moyens. Puis il y a aussi le travail de développer la photo et de rendre visible sur la photo ce qui est à voir, quand on peut le montrer
maintenant. Et c'est pas la photo qui t'a attiré non plus?
Non. J'ai fait ça pendant un moment et puis je me suis dit que j'allais retourner à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire la création artistique. Et là, j'ai commencé à tourner du côté des Beaux-Arts de Paris. Je ne m'y suis pas retrouvé dans ce milieu. Je suis descendu à Toulouse en vacances et je me suis dit que c'était bien. Et là, j'ai commencé à traîner effectivement du côté des Beaux-Arts à Toulouse, d'aller à la bibliothèque. Ça, je n'ai pas étudié aux Beaux-Arts, mais j'ai énormément fréquenté les bibliothèques et essayé de rencontrer des jeunes artistes qui étaient en études, de voir ce qu'ils étaient en train d'étudier, de bosser avec eux, puis petit à petit de faire des expos avec eux. Et donc je ne suis pas non plus complètement autodidacte. C'est, j'ai plutôt fait l'école buissonnière en quelque sorte. Voilà, c'est mon parcours, c'est ça. Et effectivement, bon, à cette époque, quand je suis arrivé à Toulouse dans les années 80, la peinture, on n'en parlait plus. C'était l'installation, la vidéo, la photo. Bon, vidéo, photo, je l'ai déjà dit, c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Donc, je me suis tourné vers...
L'installation.
L'installation et...
Travailler avec la matière, ce que tu
très intéressé par Beuys. Par,
oui, donc ce matière que... aussi.
Quoi ?
Matière, la matière.
Matière aussi, oui, ouais, voilà. Ah ouais. Donc c'est, oui, entre Duchamp et Beuys, c'est toujours Beuys qui m'a parlé le plus,
oui.
Même si Duchamp est intéressant, mais c'est...
Bah, lui, il se rapproche de ce que tu disais un petit peu au début, cette histoire de senti, de ressenti, d'ambiance,
oui.
De puisque côté... lui, il change complètement parfois l'environnement, la ouais, pièce ouais. complète et tout ça. Quoi.
Et de ce lien avec la société d'action qui arrive à un niveau artistique,
mm-hmm.
Toutes ces choses-là. Et le côté aussi que j'ai trouvé intéressant et qui m'intéresse toujours, c'est cette proclamation de chaman et cette légende qu'il fait qu'il tombe d'un avion et tout, alors qu'en réalité, c'est complètement un mythe.
C'est faux le feutre alors ?
Quoi ?
C'est faux le feutre ?
Oui, oui, oui.
L'histoire
oui.
du manteau de feutre.
Non, c'est simplement toute une mythologie qui est construite autour par rapport à lui, son propre ressenti. C'est-à-dire, on a tous une blessure en nous.
Mmh.
On a tous un vide. Et effectivement, on construit l'action artistique au-dessus de ce vide. Mmh. Et c'est ce côté-là qui m'intéresse. C'est qu'il invente une mythologie qui popularise par ces choses-là cette question. Pourquoi créer des choses artistiques, quelle fonction ça a? Bon, après, il raconte des mythes, il
oui,
parle sur le côté chaman.
Beuys, comme beaucoup, donc ça t'intéresse aussi. Ils écrivent, enfin, ils parlent,
oui,
ils s'expliquent
oui.
beaucoup,
voilà.
quoi, je veux dire.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai que quand on fait une installation, très souvent, c'est un peu une nécessité qui est
oui.
pas forcément un discours plaqué dessus, mais en tout cas une expression...
Qui
explique un petit peu ou qui dit
oui.
les choses.
Oui, de ne pas laisser entièrement le spectateur achever, de l'aider un petit peu à prendre un chemin quand il y a un chemin. Je pense qu'effectivement, déjà quand on manipule une matière, il se passe des choses.
Tu avais manipulé par exemple, c'était la MJC Roguet ou c'était du sel ?
Du sel.
Oui, mais là aussi, tu manipules la matière, toi, dans l'installation, mais tu y mets aussi la notion de temps, c'est-à-dire qu'elle se transforme...
Elle évolue avec le temps.
Voilà, oui, c'était ça.
C'est-à-dire qu'il y avait effectivement ce grand dôme de sel avec de l'eau au centre, eau qui ne restait pas, migrait à travers le sel. Comme c'était de l'eau salée, elle ne dissolvait pas le sec, elle faisait que de migrer, de cristalliser en surface et de se répandre autour et de recristalliser, formant une fleur...
Très esthétique, c'était
oui, oui.
C'est un beau travail
c'est
esthétique.
C'est un côté esthétique.
Ouais.
L'esthétisme, c'est... Bon, c'est le monde des sensations et je pense que... En art plastique, on n'a peut-être pas assez de réflexion sur... ce domaine des sensations. Alors, c'est pas le beau en soi, c'est pas la
non,
question
non,
d'un
oui,
beau
oui,
uni,
c'est...
d'un. Enfin, toutes les réflexions qu'on peut
faire
sur le beau.
De toute façon, il n'y a pas de définition du beau, on
non.
dira. C'est chacun,
non, non,
chacun
non,
a sa, son conscience.
Chacun a sa propre.
Sa perception de la beauté ou pas.
Perception. À...
Ouais.
Et sur des. Justement, sur ce qu'il compose en tant que sensation. Personne n'aura la même sensation devant un rouge.
Mmh.
On réagisse tous devant le rouge, mais chacun aura sa sensation, son vécu.
Et ça me fait penser, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup sur ça, Anish Kapoor, travaille énormément sur la sensation,
oui.
quoi, lui, avec ses tonnes de pigments, etc.
Ouais, ouais.
C'est magnifique.
Hein. Ouais,
ouais. Ah, ouais. Mais toi, tu n'es pas du tout dans la sculpture. C'est-à-dire que, mais on pourrait dire que les installations, mais ce n'était pas de la sculpture dans le sens modeler un objet.
Oui, ah, oui.
Oui.
Oui, on peut créer volume, mais
c'est du volume, voilà,
j'appellerai pas ça une sculpture, ce que j'ai fait. Il y a eu effectivement des volumes,
mm-hmm.
Mais c'est des volumes parce que la matière occupait un volume.
Et tu avais fait aussi des tableaux en paraffine. Alors là, on fait exprès en fait, de vous raconter plein de choses que vous ne verrez pas.
Ouais.
Donc on en parlera dans la prochaine suite. Mais là, c'est pour avoir une idée un petit peu de ton travail.
Oui,
sur la paraffine, c'était des tableaux, mais qui, selon la température ambiante, eh ben, se bougeaient, quoi, se déformaient.
Se bougeaient. Il y avait une...
Et du gris, toujours de la cendre. Non, qu'est-ce qu'il y avait? Du gris, il y avait un, ou du noir un peu.
C'est, dedans, il y avait des minéraux. C'est de la poudre de marbre qui grise avec la paraffine. Du blanc d'Espagne qui jaunit. Et enfin de la craie broyée, quoi. Et des fois du sable qui lui reste neutre mais rend un peu opaque, enfin casse la transparence de la paraffine. Donc il y a cette idée de strates, de couche sur couche qui viennent et qui racontent une histoire qui se faisait avec. Ben, une couche de paraffine avec de la craie, une couche de paraffine avec de la poudre de marbre, une couche. Et donc on a, comme quand on voit une roche de type marbre, on a cette profondeur et on a aussitôt l'idée de son mouvement, de sa genèse, de sa création. C'est, c'est un petit peu ça que je cherchais. En même temps que... cette question de paraffine qui sert à conserver les confitures, qui est liée à garder quelque chose des sensations qu'on a eues. Donc c'est...
Qu'on a eu avant, parce que maintenant on ne le fait plus, les
paraffines. La sensation dans
d'enfance,
le...
Le souvenir d'enfance, on va dire.
Et les souvenirs d'enfance et le...
Et alors maintenant, on peut dire que tu as... Tout ce cheminement t'amène aujourd'hui à présenter tout autre chose. Donc on a des tableaux extrêmement colorés, figuratifs. Alors figuratifs, oui, figuratifs, pas tous. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est parce que tu leur as mis des titres très figuratifs.
Oui.
Donc c'est étonnant parce que parfois, tu dis une chose sur un tableau, on ne voit pas forcément que c'est une station de ski ou que qu'est-ce que tu as mis, oignon, mon Halloween, enfin, des choses comme ça, quoi.
Oui.
Des titres très subjectifs, quoi.
Qui ramènent, qui ramènent à un moment de la vie. Dès que j'ai commencé à travailler les matières, les questions philosophiques étaient toujours en train de s'agiter. Et c'est une progression régulière qui m'a amené à revenir à la peinture. En même temps, j'étais en Allemagne de l'Est, j'ai rencontré des peintres qui avaient... bosser la peinture énormément parce qu'ils étaient dans l'ex-Allemagne de l'Est et ils avaient une formation très costaud. Et de les voir travailler, ça m'a aussi donné envie. Donc il y a une confluence d'histoires qui m'a amené à revenir à la peinture. Bon, ce qu'il y a, c'est quand dans cet ex-RDA, c'est surtout l'abstraction qui est de mise. Et qui forment une dynamique entre eux, ils en parlent, ils aiment de certains, donc ils s'alimentent sur ce courant d'abstraction. Mais quand je les ai vus travailler, je me suis dit qu'il fallait que je réintègre ces questions-là dans les images, c'est-à-dire la fabrication de l'image. On va regarder la montagne Sainte-Victoire, on va regarder le tableau, on va regarder la montagne Sainte-Victoire parce qu'on a vu le tableau.
Tableau de Cézanne.
De Cézanne. Oui. Et on l'aurait peut-être pas vu. Ça aurait été une bosse parmi d'autres bosses dans la campagne. Là, il y a quelque chose qui est éveillé. Nos sens sont avivés parce qu'il y a eu une lecture de Cézanne.
Oui, il y a une représentation, il y a une lumière.
Il y a une représentation.
Il y a un angle de prise de vue qui n'est pas toujours celui qu'on voit nous-mêmes. C'est ça, c'est la part très personnelle de l'artiste.
Cet éclatement de petites taches, de vibrations. Je pense que le cubisme est une vision un peu simpliste de poursuivre Cézanne. Enfin, c'est une chose intéressante, mais je pense qu'on peut poursuivre Cézanne, ce qu'il a touché au niveau sensation, et continuer à développer cette chose-là.
Et à partir... Tu travailles là aussi par petites touches?
Je travaille par... touche par... Oui, Serge...
Parce que quand on dit figuratif, en effet, il y a quand même un trouble, il y a un effacement. C'est pas si net que ça, quoi, les
figures.
Oui,
alors, là, pour comprendre un petit peu comment ça se passe, je pars du... Soit j'ai vu quelque chose et je travaille dessus et je le pose sur la toile, soit il y a une image qui me revient de mémoire, de rêve, de... qui en général correspondent à des images vécues.
Et tu le dessines d'abord ? Tu le dessines ?
Et je fais tous les croquis.
Tous les croquis
et je pose sur la toile l'ébauche que je lave.
De cette image que tu as dans ta tête, que tu as retenue
Une fois que l'image se tient, je la lave.
Ah oui ?
Et il reste, pour ainsi dire, presque plus rien. Et là, je regarde ce qui peut se passer au niveau peinture. Et je fais des tâches. C'est-à-dire, je balance de la peinture avec des gros pinceaux type chinois ou à poils très mous.
Pourtant, ça a l'air assez détaillé quand même.
Alors que c'est complètement la peinture qui fait le tableau.
Mmh. Et la couleur quand même.
Et la couleur.
Parce qu'il y a des couleurs, des bleus intenses, des couleurs intenses. Quoi.
Ça,
pas vives, mais intenses.
C'est palpitations. Et le côté...
Ça, c'est ton choix.
Oui, là, c'est... Mais... Voilà, c'est au début, je raisonne tant que je monte l'esquisse, tant que je vois tout ce qui peut se mettre en jeu, et après, je ne pense plus. Après, c'est avec ce rouge, il me faut ce vert, avec cet orange, il me faut ce bleu, avec... Bon, bien sûr, que j'ai appris les contrastes de couleurs
et puis l'expérience aussi, ça fait longtemps quand même, l'expérience fait
et puis l'expérience.
Tu as une relation avec, cette matière qui est différente, quoi, quand tu n'es pas un novice face à la peinture.
Oui, c'est le fait que je dis je balance de la peinture et le bonhomme apparaît, c'est aussi parce que je sais le dessiner. Donc je balance pas n'importe comment. Même si j'y pense pas, je m'étonne à chaque fois de le faire, mais mon corps le sait entièrement, donc j'ai pas besoin de dire je vais dessiner, je vois et la peinture tombe là où
c'est,
il faut.
C'est beau de dire je m'étonne, c'est beau cet étonnement.
Oui, parce que c'est un état justement où... on est comme là où tout se retisse, des mémoires, des souvenirs, de l'imaginaire, de la raison, sans qu'on le sache. On le voit le tisser, on voit...
C'est un concentré d'expression de soi-même,
voilà.
Un peu...
On peut dire qu'on a notre conscience et même surconscience, une conscience de notre conscience. Et si jamais on va au fond de nous, parce que finalement, ce jeu dont on fait partie, c'est... un grand vide dans lequel il y a des tas de résonances.
Ou un grand plein,
mais c'est... Oui, moi, je le sens comme un grand vide qui résonne. Et il n'y a pas de fond. Sauf que tout au fond, il y a des sortes de nœuds qui se tissent entre les choses, ce truc de Madeleine de Proust avec...
C'est un peu ça, quand je disais plein, c'est que comme on est des êtres sociaux, et que toi tu nous as parlé quand même, tu as tout un chemin d'expérience, je pense que tout ça c'est ce qui fait une aptitude, et c'est ça qui emplit, qui nous construit.
Oui.
On n'est pas construit que de vide, mais de toutes ces expériences, positives ou négatives, et c'est ça en fait qui après arrive à ce que tu fasses aujourd'hui de la peinture, avec des couleurs intenses.
Oui.
Mais c'est intéressant parce que tu te fixes sur une image et en fait, après, tu la refuses, l'image.
Et après, je la dépasse. C'est-à-dire que je vais voir ce qui peut la construire. C'est pas un rejet.
C'est voir ce qui va se passer, quoi.
Je pars de l'idée qu'on...
Tu la détruis pas, disons.
Quand on voit un arbre, qu'on parle ensemble de l'arbre, on parle pas de ce qu'on voit, mais on parle des mots. Arbre et de tout ce qui fait.
On rentre dans la pensée là. Oui.
Et quand on va au fond de ça, les trames qui se font, ça vient du bruit de fond, de ce qui fait qu'on est ce qu'on est, parce que autour de chaque être humain, il y a ce bruit de fond de toutes nos cultures, de toutes nos sensations qui nous ont baignés, qui nous baignent et qui ont baigné ceux. Et donc c'est un immense brouillard, disons, de fil emmêlé.
Enchevêtrement,
Et c'est à ce niveau-là où on va tisser notre fond, notre au-dessus du vide, au-dessus d'un truc flottant.
Mais comment t'entends parler, t'as pas fini de peindre, ça va être infini, quoi. Parce que si c'est ça ta source d'inspiration, il y a pas de le fond est sans fond, justement.
Oui, oui, je pense que j'ai des tas de désirs au niveau de peinture, justement, de voir, là, je suis en train de travailler, j'ai une vision de piscine, j'allais beaucoup à la piscine, j'étais champion et tout, et j'ai eu une vision de piscine qui est revenue. Bon, dans cette vision de piscine, il y a des tas de choses.
L'eau qui revient avec l'eau que tu laves les tableaux, comme ouais, par ouais, hasard, ouais, l'élément aquatique a quelque chose à voir.
L'élément aquatique est très
mais
présent.
Mais ne remonte pas à ce que nous étions, nous, sortis de l'océan.
Oui, non, je ne vais pas remonter jusque-là. Non, parce que, oui, peut-être qu'au fond du bruit de fond, nous avons la mémoire du poisson qui sort de l'eau, mais bon, elle est très profonde, elle est très loin, et je pense que... pas trop d'intérêt à y remonter.
Et donc là, bon, bah, on vous invite. Alors là, tu as fait toute une série de tableaux 2012-2013, là, tout récent. Ouais. Est-ce qu'il y avait un fil sur l'expo? Moi, je le vois au niveau de l'intensité de la couleur, je ne sais pas. Oui. On sent une unité, bien qu'il y en a qui sont l'autoportrait beaucoup plus effacé.
Plus effacé.
Mais
oui.
ça veut dire peut-être quelque chose de faire un autoportrait effacé.
Oui, j'aurais trouvé ça. Formel que de mettre des couleurs accrocheuses, puisque ce qui m'intéressait, c'était le regard. C'est-à-dire que là, il y a mon visage, ce qu'on peut voir de ce que je suis.
On reconnaît ton esprit dessin aussi, parce qu'on a l'impression que c'est dessiné.
Oui. Oui. Ah oui, c'est un jeu entre le dessin et la peinture.
Voilà, tout à fait.
Il y a la partie dessin, c'est du fusain.
Oui.
C'est-à-dire que c'est effectivement dessiné, peint en même temps.
Oui, d'accord.
Donc, c'est un mélange de signes, de marques.
Et à côté de ça, on a ces grands panneaux de couleurs où, quand on est en face, on rentre dedans, quoi. Alors, c'est vrai que j'y retrouve un peu ce côté naturaliste que tu as eu à un moment donné. Hein,
oui.
Quand tu disais que tu dessinais, quand tu étais à l'INRA. Là,
oui, 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 oui.
Et ben, moi, j'ai l'impression ça. J'ai l'impression d'un morceau de nature, quand même. Quand on rentre, on n'est pas dans des paysages urbains, quoi.
Ah oui, c'est, il faut dire que je vis en pleine campagne maintenant.
Oui.
Moi,
oui.
Parisien qui ne pouvait pas quitter Paris, là, je suis au bord d'une petite rivière, avec des collines, et on le retrouve dans mes tableaux.
On sent cette intensité des couleurs, du vert, du bleu, oui, c'est possible. C'est parfait. Je crois que on peut. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter? Est-ce que tu as des projets d'exposition? Bien que là, bon, il y en a pour un mois ici à Cadet
Sud. Il y en a pour un mois. Je vais refaire une installation à Sambarésie.
Installation.
Au printemps.
Tu reviens sur.
C'est parce qu'on me Sambarésie m'a demandé de travailler sur la germination, sur le temps. Ils avaient vu mon travail sur des haricots qui poussent.
Oui.
Au sein de paraffines qui éclosent les uns après les autres.
Je ne me souviens plus où c'était, mais...
À Bonnefoy.
À Bonnefoy, oui. Le temps.
Oui.
C'était la grande... Oui.
Ah oui, contre-temps.
Contre-temps, voilà.
Oui, oui. Et donc, j'ai dit, j'aime toujours ce travail-là. C'est... Bon, la peinture m'accapare. Là, j'ai un peu peur parce que j'ai le projet de piscine et j'ai promis de faire cette expo. Mais bon... Je vais donc...
Ça c'est très bien. Donc on vous invite ardemment à venir. Alors soit si vous n'êtes pas très loin, vous pouvez encore venir à Canal Sud pour le vernissage ce vendredi. Et sinon, c'est tout le mois de novembre. Peut-être quelque chose à rajouter parce que j'ai pas...
Oui, une question juste contacts, un lien internet, quelque chose où on peut voir les œuvres.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui.
C'est sur internet pour me trouver. C'est Jean-Claude Milot. J'ai un site. Qui va apparaître, c'est construit avec Overblog pour l'instant. Alors on peut taper soit Overblog, demander Jean-Claude Milot, soit taper directement Jean-Claude Milot. On a aussitôt Jean-Claude Milot Overblog. Et il y a aussi Le Moulin d'en bas, tout accroché, qui est là un blog où je raconte plus ma vie d'atelier, ou qui est plus le blog, vraiment.
Donc soit Le Moulin d'en bas, soit Jean-Claude Milot, M-I-2-L-O-T.
M-I-2-L-O-T.
Voilà, pour...
Tout accroché. Mais même désaccrocher Jean-Claude Milot, ça marche.
On trouve, voilà. Et sinon, merci beaucoup d'être venu t'installer ici à Canal Sud.
Merci à vous de nous avoir accueillis.
Nous mettre plein de couleurs et de belles choses sur les murs. Et bien à la prochaine, merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.